Chapitre 8. Il me semble que je connais ces traits-là, dit-il à Noon en s'efforçant de prendre un air indifférent.
Fi, monsieur, dit la jeune fille en posant sur la table le déjeuner qu'elle apportait. Ce n'est pas bien de vouloir pénétrer les secrets de ma maîtresse.
Cette réflexion fit pâlir Raymond.
Des secrets, dit-il. Si c'est là un secret, tu en es la confidente, Noon, et tu es doublement coupable de m'avoir amenée dans cette chambre.
Oh non, ce n'est pas un secret, dit Noon en souriant, car c'est M. Delmar lui-même qui a aidé à suspendre le portrait de Sir Ralph à ce panneau. Est-ce que madame pourrait avoir des secrets avec un mari si jaloux?
Sir Ralph, dis-tu? Qu'est-ce que Sir Ralph?
Sir Rodolphe Brown, le cousin de madame, son ami d'enfance, je pourrais dire le mien aussi. Il est si bon.
Raymond examinait le tableau avec surprise et inquiétude. Nous avons dit que Sir Ralph, à la physionomie près, était un fort beau garçon, blanc et vermeil, riche de stature et de cheveux, toujours parfaitement mis et capable, sinon de faire tourner une tête romanesque, du moins de satisfaire la vanité d'une tête positive. Le pacifique baronet était représenté en costume de chasse, à peu près tel que nous l'avons vu au premier chapitre de cette histoire, et entouré de ses chiens, en tête desquels la belle griffonne Ophélia avait posé, pour le beau ton gris-argent de ses soins et la pureté de sa race écossaise. Sir Ralph tenait un corps de chasse d'une main et de l'autre la bride d'un magnifique cheval anglais, gris pommelé, qui remplissait presque tout le fond du tableau. C'était une peinture admirablement exécutée, un vrai tableau de famille, avec toutes ses perfections de détail, toutes ses puérilités de ressemblance, toutes ses minuties bourgeoises, un portrait à faire pleurer une nourrice, aboyer des chiens et pâmer d'aise un tailleur. Il n'y avait qu'une chose qui fût plus insignifiant que ce portrait, c'était l'original. Cependant, il excita chez Raymond un violent sentiment de colère.
« Et quoi ? » se dit-il. « Cet Anglais, jeune et carré, a le privilège d'être admis dans l'appartement le plus secret de Madame Delmar. Son insipide image est toujours là, qui regarde froidement les actes les plus intimes de sa vie. Il la surveille, il la garde, il suit tous ses mouvements, il la possède à toute heure. La nuit, il la voit dormir et surprend le secret de ses rêves. Le matin, quand elle sort toute blanche et toute frémissante de son lit, il aperçoit son pied délicat qui se pose nu sur le tapis. Et quand elle s'habille avec précaution, quand elle ferme les rideaux de sa fenêtre et qu'elle interdit même au jour de pénétrer trop indiscrètement jusqu'à elle, quand elle se croit bien seule, bien cachée, cette insolente figure est là qui se repaît de ses charmes. Cet homme tout beauté préside à sa toilette. « Cette gaze couvre-t-elle ordinairement le tableau que voici ? » dit-il à la femme de chambre.
« Toujours, répondit-elle, quand madame est absente. Mais ne vous donnez pas la peine de la replacer, madame arrive dans quelques jours. »
« En ce cas, Noon, vous feriez bien de lui dire que cette figure a l'air impertinent. À la place de M. Delmar, je n'aurais consenti à la laisser ici qu'après lui avoir crevé les deux yeux. Mais voilà bien la grossière jalousie des maris. Ils imaginent tout et ne comprennent rien. »
Qu'avez-vous donc contre la figure de ce bon monsieur Brown ?
Dit Noon en refaisant le lit de sa maîtresse.
C'est un si excellent maître. Je ne l'aimais pas beaucoup autrefois, parce que j'entendais toujours dire à madame qu'il était égoïste. Mais depuis le jour où il a pris tant de soin de vous.
En effet, interrompit Raymond, c'est lui qui m'a secouru, je le reconnais bien à présent. Mais je ne dois son intérêt qu'aux prières de madame Delmar.
« C'est qu'elle est si bonne, ma maîtresse, » dit la pauvre Noon. « Qui est-ce qui ne deviendrait pas bon auprès d'elle ?»
Lorsque Noon parlait de madame Delmar, Raymond l'écoutait avec un intérêt dont elle ne se méfiait pas. La journée se passa donc assez paisiblement, sans que Noon osât amener la conversation à son véritable but. Enfin, vers le soir, elle fit un effort et le força de lui déclarer ses intentions. Raymond n'en avait pas d'autre que de se débarrasser d'un témoin dangereux et d'une femme qu'il n'aimait plus. Mais il voulait assurer son sort
et il lui fit en tremblant les offres les plus libérales. Cet affront fut amer à la pauvre fille. Elle s'arracha les cheveux et se fut brisée la tête si Raymond n'eût employé la force pour la retenir. Alors, faisant usage de toutes les ressources de langage et d'esprit que la nature lui avait données, il lui fit comprendre que ce n'était pas à elle, mais à l'enfant dont elle allait être mère, qu'il voulait offrir ses secours. « C'est mon devoir, lui dit-il. C'est à titre d'héritage pour lui que je vous les transmets, et vous seriez coupable envers lui si une fausse délicatesse vous les faisait repousser. »
Noun se calma, elle s'essuya les yeux.
« Eh bien, dit-elle, je les accepterai si vous voulez me promettre de m'aimer encore. » Car, pour vous être acquitté envers l'enfant, vous ne le serez point envers la mère. Lui, vos dons le feront vivre, mais moi, votre indifférence me tuera. Ne pouvez-vous me prendre auprès de vous pour vous servir? Voyez, je ne suis pas exigeante, je n'ambitionne point ce qu'une autre à ma place aurait peut-être eu l'art d'obtenir. Mais permettez-moi d'être votre servante. Faites-moi entrer chez votre mère. Elle sera contente de moi, je vous le jure. Et si vous ne m'aimez plus, du moins je vous verrai.
Ce que vous me demandez est impossible, ma chère Noun. Dans l'état où vous êtes, vous ne pouvez songer à entrer au service de personne. Et tromper ma mère, me jouer de sa confiance, serait une bassesse à laquelle je ne consentirai jamais. Allez à Lyon ou à Bordeaux, je me charge de ne vous laisser manquer de rien jusqu'au moment où vous pourrez vous montrer. Alors, je vous placerai chez quelques personnes de ma connaissance, à Paris même si vous le désirez, si vous tenez à vous rapprocher de moi. Mais sous le même toit, cela est impossible.
Impossible ! Dit Noun en joignant les mains avec douleur. Je vois bien que vous me méprisez, vous rougissez de moi. Eh bien non, je ne m'éloignerai pas, je ne m'en irai pas, seul et humilié, mourir abandonné dans quelque ville lointaine où vous m'oublierez. Que m'importe ma réputation? C'est votre amour que je voulais conserver.
Noun, si vous craignez que je vous trompe, venez avec moi. La même voiture nous conduira au lieu que vous choisirez. Partout, excepté à Paris ou chez ma mère, je vous suivrai, je vous prodiguerai les soins que je vous dois.
Oui, pour m'abandonner le lendemain du jour où vous m'aurez déposé, inutile fardeau, sur une terre étrangère.
Dit-elle en souriant amèrement.
« Non, monsieur, non. Je reste. Je ne veux pas tout perdre à la fois. J'aurais sacrifié pour vous suivre la personne que j'aimais le plus au monde avant de vous connaître. Mais je ne suis pas assez jalouse de cacher mon déshonneur pour sacrifier et mon amour et mon amitié. J'irai me jeter aux pieds de Madame Delmar, je lui dirai tout et elle me pardonnera, je le sais. » Car elle est bonne et elle m'aime. Nous sommes nés presque le même jour, elle est ma sœur de lait. Nous ne nous sommes jamais quittés, elle ne voudra pas que je la quitte, elle pleurera avec moi, elle me soignera, elle aimera mon enfant, mon pauvre enfant. Qui sait, elle qui n'a pas le bonheur d'être mère, elle l'élèvera peut-être comme le sien. Ah, j'étais folle de vouloir la quitter! Car c'est la seule personne au monde qui prendra soin de moi. »
Cette résolution jetait Raymond dans une affreuse perplexité, quand tout à coup le roulement d'une voiture se fit entendre dans la cour. Noun, épouvantée, courut à la fenêtre.
« C'est Madame Delmar ! » s'écria-t-elle. « Fuyez !»
La clé de l'escalier dérobé fut introuvable dans ce moment de désordre. Noun prit le bras de Raymond et l'entraîna précipitamment dans le corridor. Mais ils n'en avaient pas atteint la moitié qu'ils entendirent marcher dans ce même passage. La voix de Madame Delmar se fit entendre à 10 pas devant eux, et déjà une bougie, portée par un domestique qui l'accompagnait, jetait sa lueur vacillante sur leurs figures effrayées. Noun n'eut que le temps de revenir sur ses pas, entraînant toujours Raymond, et de rentrer avec lui dans la chambre à coucher. Un cabinet de toilette, fermé par une porte vitrée, pouvait offrir un refuge pour quelques instants. Mais il n'y avait aucun moyen de s'y enfermer, et Madame Delmar pouvait y entrer en arrivant. Pour n'être donc pas surpris sur le champ,
Raymond fut obligé de se jeter dans l'alcôve et de se cacher derrière les rideaux. Il n'était pas probable que Madame Delmar se coucherait tout de suite, et jusque-là, nous ne pouvions trouver un moment pour le faire évader. Indiana entra vivement, jeta son chapeau sur le lit et embrassa Noon avec la familiarité d'une sœur. Il y avait si peu de clarté dans l'appartement qu'elle ne remarqua pas l'émotion de sa compagne.
« Tu m'attendais donc ?» lui dit-elle en approchant du feu. « Comment savais-tu mon arrivée ?»
Et sans attendre la réponse,
« Monsieur Delmar, ajouta-t-elle, sera ici demain. En recevant sa lettre, je suis partie sur le champ. J'ai des raisons pour le recevoir ici et non à Paris. Je te les dirai. Mais parle-moi donc. Tu n'as pas l'air heureuse de me voir comme à ton ordinaire. »
« Je suis triste, » dit Noon en s'agenouillant auprès de sa maîtresse pour la déchausser.
« Moi aussi j'ai à vous parler, mais plus tard. Maintenant, venez au salon. »
« Dieu m'en garde, quelle idée! Il y fait un froid mortel. »«
Non, il y a un bon feu. »«
Tu rêves, je viens de le traverser. »«
Mais votre souper vous attend. » »«
Je ne veux pas souper. D'ailleurs, il n'y a rien de prêt. Va chercher mon boa que j'ai laissé dans la voiture. »«
Tout à l'heure. »«
Pourquoi pas tout de suite?
Va donc, va donc !»
En parlant ainsi, elle poussait Noon d'un air folâtre, et celle-ci, voyant qu'il fallait de la hardiesse et du sang-froid, sortit quelques instants. Mais à peine fut-elle hors de l'appartement que Madame Delmar poussa le verrou et, détachant son vichoura, le posa sur le lit à côté de son chapeau. Dans cet instant, elle approcha Raymond de si près qu'il fit un mouvement pour se reculer. Mais le lit, posé sur des roulettes, apparemment très mobile, céda avec un léger bruit. Madame Delmar, étonnée mais non effrayée, car elle pouvait croire que le lit avait été poussé par elle-même, avança néanmoins la tête, écarta un peu le rideau et découvrit, dans la demi-clarté que jetait le feu de la cheminée, la tête d'un homme qui se dessinait sur la muraille. Épouvantée, elle fit un cri, s'élança vers la cheminée pour s'emparer de la sonnette et appeler du secours. Raymond eût mieux aimé passer encore une fois pour un voleur que d'être reconnu dans cette situation. Mais s'il ne prenait pas ce dernier parti, Madame Delmar allait appeler ses gens et se compromettre elle-même. Il espéra en l'amour qu'il lui avait inspiré, et s'élançant sur elle, il essaya d'arrêter ses cris et de l'éloigner de la sonnette en lui disant à demi-voix, de peur d'être entendu de Noon, qui sans doute n'était pas loin.
« C'est moi, Indiana. Reconnais-moi et pardonne-moi, Indiana. Pardonnez à un malheureux dont vous avez égaré la raison et qui n'a pu se résoudre à vous rendre à votre mari avant de vous avoir vu encore une fois. »
Et comme il pressait Indiana dans ses bras, autant pour l'attendrir que pour l'empêcher de sonner, Noon frappa à la porte avec angoisse. Madame Delmar, se dégageant alors des bras de Raymond, courut ouvrir et revint tomber sur un fauteuil. Pâle et près de mourir, Noon se jeta contre la porte du couloir pour empêcher les domestiques qui allaient et venaient de troubler cette scène étrange. Plus pâle encore que sa maîtresse, les genoux tremblants, le dos collé à la porte, elle attendait son sort. Raymond sentit qu'avec de l'adresse, il pouvait encore tromper ces deux femmes à la fois. «
Madame, dit-il en se mettant à genoux devant Indiana, ma présence ici doit vous sembler un outrage. Me voici à vos pieds pour en implorer le pardon. Accordez-moi un tête-à-tête de quelques instants et je vous expliquerai. »
« Taisez-vous, monsieur, et sortez d'ici !» s'écria Madame Delmar en reprenant toute la dignité de son rôle.
« Sortez-en publiquement. Noon, ouvrez cette porte et laissez passer monsieur afin que tous mes domestiques le voient et que la honte d'un tel procédé retombe sur lui seul. »
Noon, se croyant découverte, vint se jeter à genoux à côté de Raymond. Madame Delmar, gardant le silence, la contemplait avec surprise. Raymond voulut s'emparer de sa main, mais elle la lui retira avec indignation. Rouge de colère, elle se leva et, lui montrant la porte,
Sortez, vous dis-je, répéta-t-elle. Sortez, car votre conduite est infâme. Ce sont là les moyens que vous vouliez employer, vous, monsieur, caché dans ma chambre comme un voleur. C'est donc une habitude chez vous que de vous introduire ainsi dans les familles. C'est là l'attachement si pur que vous me juriez hier soir. C'est ainsi que vous deviez me protéger, me respecter et me défendre. Voilà le culte que vous me rendez. Vous voyez une femme qui vous a secouru de ses mains, qui, pour vous rendre la vie, a bravé la colère de son mari. Vous l'abusez par une feinte reconnaissance, vous lui jurez un amour digne d'elle, et pour prix de ses soins, pour prix de sa crédulité, vous voulez surprendre son sommeil et hâter votre succès par je ne sais quelle infamie. Vous gagnez sa femme de chambre, vous vous glissez presque dans son lit, comme un amant déjà heureux. Vous ne craignez pas de mettre ses gens dans la confidence d'une intimité qui n'existe pas. Allez, monsieur, vous avez pris soin de me désabuser bien vite. Sortez, vous dis-je, ne restez pas un instant de plus chez moi. Et vous, misérable fille, qui respectez si peu l'honneur de votre maîtresse, vous méritez que je vous chasse. Ôtez-vous de cette porte, vous dis-je.
Noun, à demi morte de surprise et de désespoir, avait les yeux fixés sur Raymond, comme pour lui demander l'explication de ce mystère inouï. Puis, l'air égaré, tremblante, elle se traîna vers Indiana et lui saisissant le bras avec force.
« Qu'est-ce que vous avez dit ? » s'écria-t-elle, les dents contractées par la colère. « Cet homme avait de l'amour pour vous ?»«
Eh, vous le saviez bien, sans doute, » dit Madame Delmar en la poussant avec force et dédain. « Vous saviez bien quel motif un homme peut avoir pour se cacher derrière les rideaux d'une femme. »
« Ah, Noun !» ajouta-t-elle, voyant le désespoir de cette fille. « C'est une lâcheté insigne et dont je ne t'aurais jamais cru capable. Tu as voulu vendre l'honneur de celle qui avait tant de foi au tien. »
Madame Delmar pleurait, mais de colère en même temps que de douleur. Jamais Raymond ne l'avait vue si belle. Mais il osait à peine la regarder, car sa fierté de femme outragée le forçait à baisser les yeux. Il était là, consterné, pétrifié par la présence de Noun. S'il eût été seul avec Madame Delmar, il aurait eu peut-être la puissance de l'adoucir. Mais l'expression de Noun était terrible. La fureur et la haine avaient décomposé ses traits. Un coup frappé à la porte les fit tressaillir tous trois. Noun s'élança de nouveau pour défendre l'entrée de la chambre. Mais Madame Delmar, la repoussant avec autorité, fit à Raymond le geste impératif de se retirer vers l'angle de l'appartement. Alors, avec ce sang-froid qui la rendait si remarquable dans les moments de crise, elle s'enveloppa d'un châle, entr'ouvrit elle-même la porte et demanda au domestique qui avait frappé ce qu'il avait à lui dire. « Monsieur Rodolphe Braun vient d'arriver, » répondit-il. « Il demande si madame veut le recevoir. »
« Dites à Monsieur Rodolphe que je suis charmée de sa visite et que je vais aller le trouver. Faites du feu au salon et qu'on prépare à souper. Un instant, allez me chercher la clé du petit parc. »
Le domestique s'éloigna. Madame Delmar resta debout, tenant toujours la porte entr'ouverte, ne daignant pas écouter Noun et commandant impérieusement le silence à Raymond. Le domestique revint 3 minutes après. Madame Delmar, tenant toujours le battant de la porte entre lui et Monsieur de Ramière, reçut la clé, lui ordonna d'aller hâter le souper et, dès qu'il fut parti, s'adressant à Raymond,
« L'arrivée de mon cousin, Sir Braun, lui dit-elle, vous sauve du scandale auquel je voulais vous livrer. C'est un homme d'honneur et qui prendrait chaudement ma défense. Mais comme je serais fâchée d'exposer la vie d'un homme comme lui contre celle d'un homme comme vous, je vous permets de vous retirer sans éclat. Noun, qui vous a fait entrer ici, saura vous en faire sortir. Allez !»«
Nous nous reverrons, madame, » répondit Raymond avec un effort d'assurance. « Et, quoique je sois bien coupable, vous regretterez peut-être la sévérité avec laquelle vous me traitez maintenant. »«
J'espère, monsieur, que nous ne nous reverrons jamais, » répondit-elle.
Et, toujours debout, tenant la porte et sans daigner s'incliner, elle le vit sortir avec sa tremblante et misérable complice. Seul dans l'obscurité du parc avec elle, Raymond s'attendait à des reproches.
Noon ne lui adressa pas une parole. Elle le conduisit jusqu'à la grille du parc de réserve. Lorsqu'il voulut lui prendre la main, elle avait déjà disparu. Il l'appela à voix basse car il voulait savoir son sort. Mais elle ne lui répondit pas et le jardinier, paraissant, lui dit « Allons, monsieur, retirez-vous. Madame est arrivée et l'on pourrait vous découvrir. » Raymond s'éloigna, la mort dans l'âme. Mais dans sa douleur d'avoir offensé Madame Delmar, il oubliait presque Noon et ne songeait qu'au moyen d'apaiser la première. Car il était dans sa nature de s'irriter des obstacles et de ne jamais s'attacher passionnément qu'aux choses presque désespérées. Le soir, lorsque Madame Delmar, après avoir soupé silencieusement avec Sir Ralph, se retira dans son appartement, Noon ne vint pas comme à l'ordinaire pour la déshabiller. Elle la sonna vainement, et quand elle pensa que c'était une résistance marquée, elle ferma sa porte et se coucha. Mais elle passa une nuit affreuse, et dès que le jour fut levé, elle descendit dans le parc. Elle avait la fièvre, elle avait besoin de sentir le froid la pénétrer et calmer le feu qui dévorait sa poitrine. La veille encore, à pareille heure, elle était heureuse, en s'abandonnant à la nouveauté de cet amour enivrant. En 24 heures, quelles affreuses déceptions! D'abord, la nouvelle du retour de son mari, plusieurs jours plus tôt qu'elle n'y comptait. Ces 4 ou 5 jours qu'elle avait espéré passer à Paris, c'était pour elle toute une vie de bonheur qui ne devait pas finir, tout un rêve d'amour que le réveil ne devait jamais interrompre. Mais dès le matin, il avait fallu y renoncer, reprendre le joug et revenir au-devant du maître, afin qu'il ne rencontrât pas Raymond chez Madame de Carvajal. Car Indiana croyait qu'il lui serait impossible de tromper son mari s'il la voyait en présence de Raymond. Et puis, ce Raymond qu'elle aimait comme un dieu, c'était par lui qu'elle se voyait outragée bassement. Enfin, la compagne de sa vie, cette jeune créole qu'elle chérissait, se trouvait tout à coup indigne de sa confiance et de son estime. Madame Delmar avait pleuré toute la nuit. Elle se laissa tomber sur le gazon, encore blanchi par la gelée du matin, au bord de la petite rivière qui traversait le parc. On était à la fin de mars, la nature commençait à se réveiller, la matinée, quoique froide, n'était pas sans charme. Des flocons de brouillard dormaient encore sur l'eau comme une écharpe flottante, et les oiseaux essayaient leur premier chant d'amour et de printemps. Indiana se sentit soulagée et un sentiment religieux s'empara de son âme. « C'est Dieu qui l'a voulu ainsi, » dit-elle. « Sa providence m'a rudement éclairée, mais c'est un bonheur pour moi. Cet homme m'eût peut-être entraînée dans le vice, il m'eût perdue, au lieu qu'à présent la bassesse de ses sentiments m'ait dévoilée et je serais en garde contre cette passion orageuse et funeste qui fermentait dans son sein. » J'aimerai mon mari. Je tâcherai. Du moins, je lui serai soumise, je le rendrai heureux en ne le contrariant jamais. Tout ce qui peut exciter sa jalousie, je l'éviterai. Car maintenant, je sais ce qu'il faut croire de cette éloquence menteuse que les hommes savent dépenser avec nous. Je serai heureuse, peut-être, si Dieu prend pitié de mes douleurs et s'il m'envoie bientôt la mort. Le bruit du moulin qui mettait en mouvement la fabrique de M. Delmar commençait à se faire entendre derrière les saules de l'autre rive. La rivière, s'élançant dans les écluses que l'on venait d'ouvrir, s'agitait déjà à sa surface, et comme Mme Delmar suivait d'un œil mélancolique le cours plus rapide de l'eau, elle vit flotter entre les roseaux comme un monceau d'étoffe que le courant s'efforçait d'entraîner. Elle se leva, se pencha sur l'eau, et vit distinctement les vêtements d'une femme, des vêtements qu'elle connaissait trop bien. L'épouvante la rendait immobile, mais l'eau marchait toujours, tirant lentement un cadavre hors des joncs où il s'était arrêté, et l'amenant vers Madame Delmar. Un cri déchirant attira en ce lieu les ouvriers de la fabrique. Madame Delmar était évanouie sur la rive, et le cadavre de Noon flottait sur l'eau devant elle. Fin de la première partie.